Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je pense que oui. C'est un exercice très stressant pour moi. Alors, je suis désolée si je bug un peu dans les mots que je vais aborder. C'est le temps de me lancer. Je suis Noémie Dujardin, donc je suis psychologue. J'ai exercé pendant 4 ans au sein de l'éducation nationale, dans le premier degré, donc dans les écoles maternelles et primaires. Et aujourd'hui, j'exerce au sein du Centre d'information pour le droit des femmes et des familles de l'Orne. Donc, c'est une association d'aide aux victimes, essentiellement des femmes, puisque ce sont essentiellement des femmes qu'on retrouve qui sont victimes de violences conjugales. C'est une association qui offre en premier lieu un accès au droit aux personnes victimes de violences. Et donc, au sein de l'association, donc, on peut aussi leur offrir un soutien psychologique. Là, aujourd'hui, l'idée, moi, c'est d'intervenir plus sur le versant éducation nationale, donc de reprendre mon ancienne casquette pour aborder l'action du psychologue au sein de l'éducation nationale quand on a des révélations de violence. Je vais également parler aussi des professionnels de l'éducation nationale, comment on peut se positionner et agir face à des révélations de violence de la part des enfants. Donc déjà, pour commencer, oui, il y a des psychologues dans l'éducation nationale, parce que c'est souvent une question qui revient. On a deux possibilités d'intervention, dans le premier degré, dans les écoles maternelles et primaires, et dans le second degré, collège-lycée. Donc, c'est deux spécialisations différentes. Si vous souhaitez, vous pouvez y accéder par le concours de l'éducation nationale, pour devenir psychologue de l'éducation nationale, pour devenir titulaire du poste ou par voie contractuelle. Un des avantages de ce poste-là, c'est qu'on a accès à un public riche et varié, puisque les violences, en fait, elles se retrouvent dans tous les milieux, elles concernent tous les âges, tous les niveaux d'études et toutes les cultures. Alors, je ne reviens pas du coup sur les violences de façon générale. Enfin, j'ai fait ce choix-là parce que j'imaginais que mes collègues le feraient avant et donc elles l'ont très bien fait. Donc, je vais reprendre du coup les signes d'alerte qui, pour moi, sont dépendants et différents selon l'âge de l'enfant, sa personnalité, son caractère et les ressources environnementales dont il peut se saisir également. Quand je parle de ressources, ça peut être par exemple la fratrie, puisque les enfants entre eux au sein de la fratrie peuvent se soutenir mutuellement et s'offrir une aide au sein de la famille, notamment par les différents rôles que mes collègues ont pu évoquer avant. Et donc, comme elles ont pu l'évoquer aussi avant, selon l'âge de l'enfant, les répercussions vont être différentes sur l'enfant. Nous, dans l'éducation nationale, ce qu'on peut observer, notamment, ça va être un isolement de l'enfant. Ah, c'est les micros. Un seul. Donc, on peut observer donc, un isolement. L'enfant qui change d'attitude ou de comportement, puisque comme il a pu être évoqué par mes collègues, les violences conjugales sont un processus, donc ça se met en place de façon progressive. Il peut y avoir aussi une escalade dans les violences, c'est-à-dire qu'on peut observer dans un premier temps des violences qui vont être d'ordre verbal et psychologique et qui, au fur et à mesure du temps, vont augmenter et on va avoir des violences physiques qui vont apparaître. Là, on peut observer, par exemple, un changement d'attitude et de comportement de l'enfant s'il y a une modification dans les violences qui sont perpétrées au domicile. Et d'autant plus quand les violences peuvent également perdurer post-rupture. Donc, les enfants, finalement, ils peuvent se retrouver dans un conflit de loyauté ou de protection. Dans les deux cas, en fait, les enfants, à chaque fois, ils ont le cul entre deux chaises, hein, clairement, c'est ça. Ils jonglent entre maman et papa et ils essaient de faire au mieux et de s'adapter. Et c'est aussi, nous, ce qu'on va observer en tant que professionnels qui les accompagnons. On peut également observer donc une faible estime de soi, un manque de confiance en soi. Ça peut être également une hypervigilance, une anxiété, des crises d'angoisse, une difficulté à lier des liens avec les autres enfants à l'école. On peut également observer un enfant qui peut être en recherche énormément de l'adulte et de son attention, ou alors à l'opposé, dans le rejet de l'adulte. Et on peut également retrouver du harcèlement. Soit l'élève va devenir harceleur, soit être harcelé, puisque donc, dans les dynamiques familiales, l'enfant apprend des relations et de comment se positionner en relation. Et donc là, il pourrait adopter soit la posture de l'agresseur, soit la posture de la victime, finalement. Dans ce que je n'ai pas noté, mais que mes collègues ont pu évoquer avant, il y a de l'absentéisme scolaire aussi qui peut se retrouver, une intolérance à la frustration. Et on peut également aussi retrouver des symptômes comme des difficultés de concentration, une irritabilité, des troubles du sommeil, des difficultés à se concentrer, je l'ai dit, qu'on peut confondre parfois avec un TDAH à l'école. Sans forcément vouloir systématiser, si on suppose un TDAH, de systématiser qu'il y ait des violences, mais je pense que ça peut être intéressant de le garder en tête en tant que professionnel pour pouvoir, s'il y a d'autres éléments qui peuvent nous alerter, y être attentif. Voilà. Alors, concrètement, du coup, en tant que professionnel qui intervenons auprès des enfants dans l'éducation nationale, comment on peut faire ? Donc déjà, quand il y a suspicion de violence, on peut, dans un premier temps, mettre en place un climat de confiance avec l'enfant ou l'adolescent pour lui permettre de se sentir en sécurité et de pouvoir aborder les problématiques qu'il peut rencontrer. Encore une fois, c'est un processus, c'est quelque chose qui va se mettre en place sur le long terme. L'idée, c'est que l'enfant ou l'adolescent ait un endroit qui lui permette de se sécuriser et là où il peut avoir une parole libre. Dans cette idée aussi, ça peut être de lier un lien de confiance avec le parent victime, ou du moins qu'on suppose victime, de permettre une disponibilité un lien aussi de non-jugement énormément, puisque de toute façon, ce sont des personnes qui sont fragilisées et qui vont se sentir jugées, qui vont aussi, comme l'ont dit mes collègues, pouvoir minimiser certains faits, minimiser certaines choses qui leur arrivent, et parfois aussi, tout comme dans le processus de l'agresseur, en fait, justifier d'elle-même ce que l'agresseur pourrait justifier pour lui, finalement, dans une dynamique de protection, finalement, de l'autre. On peut également proposer un espace de soutien. Finalement, ça rejoint ce que je dis avant. Et on peut aussi solliciter les EMAS, donc les équipes mobiles d'appui à la scolarité. Donc, selon leur mission, puisque donc les EMAS sont souvent rattachés à des institutions hautes. Par exemple, je sais que sur le secteur de Falaise, l'EMAS est rattaché à l'ITEP de Baron-sur-Odon. Elles interviennent principalement sur les troubles du comportement, mais étant en lien avec les professionnels de l'éducation nationale, l'EMAS peut offrir un soutien différent. Donc, c'est une équipe qui a plusieurs professionnels, souvent psychologues, on peut avoir des éducateurs, psychomotes, ça peut être des orthophonistes selon aussi les équipes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas la casquette de l'aide sociale à l'enfance, ils n'ont pas la casquette de l'éducation nationale, et donc ça va pouvoir offrir un lien différent, encore une fois, pour les parents. Et ils peuvent avoir accès à la famille de façon différente de ce que nous, on peut avoir dans l'éducation nationale. Ce qui peut être vraiment complémentaire. Tout à l'heure, mes collègues parlaient du travail de partenariat et de lien. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'il faut voir les choses. Et ensuite, en cas de violence révélée, bien évidemment, il y a donc le recueil d'informations préoccupantes, qui est un écrit à faire sur les faits qu'un enfant pourrait nous avoir révélés. On va transmettre à la CRIP, donc à la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui vont ensuite traiter l'écrit et donc soit décider de ne pas donner suite, soit donner suite en demandant une enquête sociale qui viendra en fait investiguer le lieu de vie de l'enfant et donc donnera des suites derrière de prise en charge. Autre chose, c'est le signalement au procureur qu'on peut faire. Donc là, le signalement au procureur, c'est quand, moi j'ai jamais été confrontée à ça, mais c'est quand on a des violences qui sont graves, imminentes, et que l'enfant est vraiment en danger là sur le moment. Donc là, on envoie un courrier au tribunal judiciaire compétent. Et donc c'est soit le juge des enfants, soit le procureur lui-même qui se saisit directement du signalement. Et donc il va prendre parti et statuer rapidement sur les suites pour l'enfant, donc placement en famille d'accueil, placement en foyer, chez un tiers digne de confiance, toutes ces choses-là. Le recueil d'informations préoccupantes, on peut avoir tendance à le systématiser quand on est face à des révélations de violence. Alors, effectivement, c'est important de pouvoir le signaler pour protéger l'enfant, mais je pense aussi que c'est important de ne pas le systématiser dans le sens où... si vous arrivez à maintenir un lien, à créer un lien de confiance avec le parent, avec l'enfant, que vous êtes dans une, enfin que la famille, ou du moins le parent victime est dans une dynamique où il le prend en charge, où il prend conscience des violences, où il va faire finalement des démarches pour se protéger et protéger son enfant. Peut-être que ça pourrait être fragilisant pour cette personne-là. Qu'un recueil d'informations préoccupantes soit fait. Mais ce recueil d'informations préoccupantes, il peut aussi être fait en alliance avec la famille. Donc, finalement, voilà, je questionne le fait de le systématiser dans le sens où je pense que c'est important, surtout, d'en parler avec la famille et de pouvoir rendre actrice la famille aussi dans cette démarche-là. Dans ce que vous pouvez également faire, c'est rediriger le parent victime vers des organismes de des professionnels de soutien, donc que ce soit les CMP, les CMPEA plutôt pour les enfants, les centres d'information pour le droit des femmes et des familles, la CJM qui est pareil une autre association d'aide aux victimes, donc c'est aide aux victimes, citoyenneté, justice et médiation, des avocats, ça peut être l'aide sociale à l'enfance aussi. Puisque l'aide sociale à l'enfance peut se saisir par voie administrative, donc sur demande des parents, sans forcément passer par un jugement. Proposer un espace pour l'enfant, donc les CMP, la maison des ados. Mais donc ça, donc ma collègue évoquait la limite qu'on a besoin de l'accord des deux parents. Donc ça peut être une limite pour les enfants si le parent auteur des violences n'est pas d'accord et du coup s'oppose à une prise en charge pour son enfant. Et donc, en tant que psychologue de l'éducation nationale, donc, en prévention, déjà, ça va être de développer son réseau partenarial. Donc, encore une fois, les associations d'aide aux victimes, les différents professionnels de santé, les circonscriptions d'action sociale, la PMI, les CMP, etc. De pouvoir être en lien avec tout le monde et de bien avoir en tête ce que chaque professionnel fait, ce que chaque institution propose comme service. Ça va être également de créer un lien de confiance avec les enseignants. En tant que psychologue d'éducation nationale, on intervient sur différents établissements. Donc, on n'est pas forcément présent tout le temps dans le même établissement. Parfois, les enseignants ne nous identifient pas forcément. Donc, c'est important de pouvoir créer ce lien avant, avant ce type de problématique pour bien être identifié et surtout être identifié comme quelqu'un de soutien et une ressource pour les enseignants. Donc, se rendre disponible, être à l'écoute, apporter un soutien professionnel, accompagner si besoin les enseignants à la rédaction des recueils d'informations préoccupantes parce que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais les enseignants vont être les premières personnes finalement à avoir le retour des enfants et les révélations. Donc c'est surtout apporter ce soutien-là. On peut également proposer des temps de formation ou d'information sur le sujet des violences selon leur dispenser par soi-même, si on s'en sent les compétences et les capacités, ou alors de faire intervenir des organismes compétents. Ça peut être partager des ressources, être vraiment une personne de lien. On peut aussi proposer des sensibilisations en classe sur différents thèmes qui touchent de près ou de loin aux violences. Donc ça, attention, parce que ça peut aussi faire émerger des révélations de violence derrière. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est possible, du moins pour faire peut-être réfléchir les enfants et les ados, mais également les adultes sur le sujet. Ça peut être également informer les enseignants sur la posture à adopter quand on reçoit des propos qui sont inattendus, ou même dans l'accompagnement des personnes victimes de violences, puisque... Comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui sont très vulnérables. C'est pouvoir proposer un espace de parole calme et confidentiel. Ne pas hésiter à rompre le silence des violences, parce que l'agresseur met ça aussi en place. C'est qu'il isole la victime, mais il fait en sorte aussi que la victime n'en parle pas autour d'elle. Qu'elle ne se sente pas légitime, qu'elle ait l'impression que ce soit elle finalement qui ait provoqué toutes ces violences-là. Donc de rompre le silence, c'est assez important. Déresponsabiliser l'enfant, mais aussi le parent victime, hein, bien évidemment. Légitimer les émotions, permettre aussi d'évaluer le danger, rester disponible. Et aussi, alors, si vous recevez l'enfant seul, pouvoir évoquer que vous allez recevoir son parent ensuite. Lui montrer que, dans le processus de déresponsabilisation, que vous allez responsabiliser son parent. Vous pouvez donc aussi, en tant que psychologue de l'éducation nationale, proposer des groupes de parole. Alors moi, j'ai fait pas mal d'ateliers philosophie en lien avec les enseignants spécialisés. On s'adresse à un groupe d'enfants sur un sujet assez vaste, on les fait réfléchir sur... D'accord. C'est bon. Désolée. Bon, désolée. Donc les ateliers philosophie, donc on va faire réfléchir du coup les enfants sur un sujet, un thème. Assez large. Par exemple, pour vous, qu'est-ce que c'est la justice ? Et donc, les enfants vont pouvoir élaborer leurs propres idées, leurs propres interprétations. Et donc, ça peut permettre aussi, en prévention, de travailler certains sujets avec les élèves. Et aussi, dans le cadre des directives académiques, de pouvoir proposer des campagnes de sensibilisation élaborées avec les élèves. L'idée, c'est de pouvoir impliquer les élèves dans cette conscientisation de l'existence des violences pour ceux qui n'en subiraient pas, mais également pouvoir ouvrir le sujet pour les enfants et adultes qui peuvent en être victimes. Voilà. Et donc, en cas de violence révélée, encore une fois, si en tant que psychologue, on vous révèle des violences, donc il y a le recueil d'informations préoccupantes, le signalement au procureur, encore une fois, ne pas hésiter à contacter la CRIP, donc la cellule de recueil des informations préoccupantes, parce que eux vont être une ressource quand même pour nous en tant que professionnels. Pour tout questionnement, parfois on a sans avoir de révélation claire de « papa m'a tapé dessus » ou « maman s'est fait taper dessus », on va avoir des petits signes, des petits éléments qui, mis bout à bout, comme l'ont évoqué mes collègues, vont faire penser que l'enfant est en situation de danger. Donc, ne pas hésiter à appeler la CRIP pour leur exposer les faits et eux pourront vous dire effectivement si ça relève d'un RIP, d'un signalement, ou si là, dans ce cas-là, il faut plutôt réorienter les parents soit vers le JAF ou le juge des enfants. Si vous en avez la possibilité, que vous en sentez la possibilité aussi, proposer un soutien psychologique individuel aux élèves concernés. En soi, dans l'éducation nationale, on a beaucoup de possibilités, beaucoup de champs d'action, mais donc il y a différents facteurs à prendre en compte, que ce soit ses propres compétences, sa propre disponibilité, On peut aussi ne pas se sentir en capacité d'accompagner et d'entendre ce genre de situation. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à rediriger. On ne peut pas tout accompagner. Ce n'est pas parce qu'on est psychologue qu'on doit tout accompagner. Et ça, je pense que c'est important à garder en tête tout au long de votre parcours. Ça dépend également du temps qu'on peut avoir, puisqu'en tant que psychologue de l'éducation nationale, comme j'ai pu le dire, on est sur différents secteurs, différents établissements, donc on a aussi d'autres missions à côté de ça, donc on n'a pas forcément le temps de pouvoir mettre tout ça en place, mais du moins ce sont des idées. Ça va dépendre aussi également des moyens qu'on a, de l'investissement et du lien de confiance aussi avec chacun. Voilà, et donc pour terminer, je voulais vous apporter des ressources, des outils que vous pouvez aller voir. Donc vous avez notamment le Centre Hubertine Auclert, donc qui est un centre pour l'égalité hommes-femmes. C'est une plateforme de ressources qui permet de renforcer le travail de réseau, promouvoir l'égalité femmes-hommes et lutter contre les violences faites aux femmes. Donc vraiment, vous avez vraiment beaucoup de ressources sur ce site-là, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez également l'Observatoire national pour la protection de l'enfance. Pareil, beaucoup de ressources d'articles, d'études qui ont été faites. Vous avez le site noustoutes.org. Alors, c'est une association à but féministe, donc c'est très engagé. Mais grâce à cette association-là, vous avez accès à des chiffres, donc bien que ce ne soient pas les officiels, comme l'a pu l'évoquer Madame Wesch, ça peut faire débat. Mais du moins, vous pouvez avoir accès à des chiffres, accès à de l'information sur les violences sexistes et sexuelles et accès aussi à des formations sur les bases des violences sexistes et sexuelles qui sont totalement gratuites. Vous avez également le site de la MIPROF, donc, qui est un site du gouvernement, donc la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Donc là, le but, c'est d'accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de la pratique professionnelle et notamment dans la rédaction des écrits professionnels. Vous avez beaucoup d'outils sur ce site-là et notamment des kits pédagogiques qui reprennent les différentes violences. Et notamment, vous avez un kit qui s'intitule l'impact des violences sur les enfants. Vous avez aussi le collectif féministe contre le viol et tous les numéros d'urgence que vous pouvez transmettre et utiliser pour vous aussi, pour toute question. Voilà.